À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Numéro 13, les vignerons. L'histoire, lire Matthieu 21:33-41, Marc 12, 1-9, Luc 20, 9 à 16. Comme les autres paraboles, celle-ci invite les auditeurs à émettre un jugement sur l'histoire racontée. Avant de préciser quel est ce jugement, considérons certains éléments intéressants de ce récit, qu'on peut diviser en 5 épisodes. 1. La plantation de la vigne, verset 33. Les dispositions prises par le maître de maison pour aménager la vigne soulignent son droit absolu sur sa propriété. Elle lui appartient parce qu'il l'a lui-même montée et installée. 2. L'envoi successif des serviteurs, versets 34 à 36. Deux faits doivent nous frapper dans cet épisode. D'abord, le propriétaire fait preuve d'une patience incroyable, une patience qu'on ne trouverait pas dans la vie ordinaire. Quel maître laisserait, sans réagir, tous ses serviteurs être ainsi massacrés les uns après les autres? Le deuxième fait frappant, c'est la culpabilité accumulée des vignerons, qui commettent crime sur crime pour frustrer le maître de ce qui lui revient de droit. Ce sont des criminels endurcis qui agissent en toute conscience de leur rébellion. 3. L'envoi du fils, verset 37. Voici le trait le plus étrange du récit. Quel père, en effet, ayant vu tous ses serviteurs tués, enverrait vers les meurtriers son fils unique, Marc 12, 6, et bien-aimé, Luc 20:13, dans le vague espoir que peut-être il le respecterait, Luc 20:13. 4. Le meurtre du fils, versets 38 à 39. Comme le maître n'a plus de serviteurs et que son fils est unique, les vignerons supposent, semble-t-il, qu'il ne reste plus personne pour venir réclamer les revenus et que la vigne, une fois l'héritier disparu, restera en leur possession. 5. Le châtiment, versets 40 à 41. La parabole se termine par une question, Matthieu 21:40, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? En réalité, Jésus demande à ses auditeurs de porter un jugement, d'indiquer ce que méritent les vignerons. Il n'y a qu'une réponse possible, l'extermination des coupables et la transmission de la vigne à d'autres. Chez Marc et Luc, Jésus reprend et confirme cette sentence. Luc 20:16, il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Tout le monde est obligé de convenir de la justice d'un tel châtiment. Comme nous le verrons dans l'application que fait Jésus, c'est vers le châtiment des vignerons que converge tout le mouvement de ce récit. Cela transforme les autres détails en préliminaires, quel que soit le sens symbolique qu'ils puissent revêtir. Le contexte de cette parabole suit immédiatement celle des deux fils, qui a illustré l'incrédulité des chefs du peuple vis-à-vis de Jean-Baptiste et leur exclusion du royaume messianique. Jésus va maintenant poursuivre son offensive contre ces mêmes autorités juives venues lui chercher noises. Il les interpelle directement, Matthieu 21:33, écoutez une autre parabole. Luc, par contre, indique que la parabole est adressée au peuple, Luc 20, 9. C'est donc publiquement, devant la foule, que Jésus accuse la délégation sanhédrite dans un récit dont le sens se laisse facilement comprendre. Il ne restera aux adversaires du Christ, malgré leur désir intense de le supprimer sur le champ, plus d'autre échappatoire que celle de se retirer au plus vite. Marc midi 12, ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent. L'application originelle, lire Matthieu 21:42-44, Marc midi 10:11, Luc 20:16b-18. Tout comme la parabole des deux fils, celle des vignerons prononce la condamnation des dirigeants juifs incrédules qui complotent la mort de Jésus. L'application du jugement émis au verset 41 est donc assez claire, au moins dans les grandes lignes, elle vise avant tout le châtiment divin qui fondrait sur les meurtriers du Fils de Dieu. La parabole contient évidemment des éléments allégoriques qui, bien que secondaires, servent à mettre en lumière la pleine signification de la situation illustrée. Relevons cette raie et cherchons le sens que Jésus leur donnait et que ses auditeurs y auraient trouvé. 1. La vigne. Dans sa description de la plantation de la vigne, Jésus fait peut-être allusion à la parabole prophétique d'Ésaïe 5, 1 à 7. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Or donc, maintenant habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. Je la réduirai en ruine. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture. La justice, et voici le cri du vice. Ésaïe demande ici aux Israélites de porter un jugement. Supporteraient-ils une vigne sur laquelle on avait prodigué tous les soins possibles mais qui ne produisait que des fruits infects? La réponse, bien sûr, est non. Le prophète fait alors l'application, Dieu, qui avait tant fait pour Israël, ne supporte plus la rébellion de son peuple et le livre Réonation, voire 5h24-30. Que Jésus évoque ce texte particulier ou non, l'image de la vigne était familière aux Juifs et désignait souvent le peuple élu, Osée 10, 1, Psaume 80, 9 et 16, Jérémie 2h21, etc. Elle indique ici qu'il s'agit dans cette parabole des rapports entre Dieu et Israël. Ceci ne signifie pas pourtant que dans l'application, la vigne symbolise Israël d'une manière précise, car Jésus la met en parallèle plutôt avec le royaume, Matthieu 21h43. La suite du récit nous montre, en effet, que c'est avec les vignerons qu'il faut identifier non seulement les chefs d'Israël, mais aussi l'ensemble des Juifs incrédules. Car ce sont tous les membres rebelles de la nation qui sont coupables d'avoir rejeté les envoyés divins. 2. Les serviteurs. Les missions successives des serviteurs suggèrent la longue série de prophètes que Dieu avait envoyés à Israël et que celui-ci avait rejetés ou tués. Dieu emploie justement cette même image dans Jérémie 7h25-26, « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont fait le mal plus que leur père. » Mais puisque cette parabole vise explicitement des Juifs contemporains de Jésus, dans quel sens peut-il les accuser d'avoir massacré les prophètes des siècles passés? La réponse se trouve dans Matthieu 23h29-37, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes, et que vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères! Comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voir aussi Luc 6h22-23. Jésus parle ici à des gens méchants et meurtriers qui étaient exactement comme leur père. Ils commettraient les mêmes crimes et recevraient les mêmes châtiments. Jésus ne les tenait pas littéralement responsables du meurtre de tous les justes depuis Abel jusqu'à Zacharie. Il voulait tout simplement dire que les Juifs incrédules de sa génération étaient en quelque sorte la réincarnation de leurs pères assassins, qu'ils faisaient cause commune avec eux dans le mal. Matthieu 23h32, mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Qui fait déborder la mesure se solidarise avec ceux qui l'ont précédemment rempli. 3. Le Fils. Il n'y a aucun doute que Jésus se met lui-même en scène dans le personnage du Fils. Marc et Luc précisent que le dernier envoyé du propriétaire est son Fils bien-aimé, une expression qui évoque la façon dont la voix céleste présente Jésus lors de son baptême et de sa transfiguration. Même si ses auditeurs ne voyaient pas dans ce titre de fils une désignation du Messie, ils savaient très bien que Jésus avait revendiqué une filiation unique avec Dieu. C'est là, en effet, l'un des sujets d'accusation qu'on portait contre lui. Jean 5h18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. 4. Le crime. Les versets 38 à 39 contiennent une allusion claire au meurtre qu'allaient commettre les adversaires de Jésus, meurtre qui était déjà arrêté dans l'esprit des chefs religieux. Ce rejet de Dieu dans la personne de son Fils unique constituerait le point culminant de la rébellion d'Israël incrédule, c'est le crime qui ferait déborder la mesure et qui rendrait inévitable le jugement divin contre cette génération, Matthieu 23h36, Matthieu 27, 25, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. 5. Le châtiment. Ayant accusé les dirigeants juifs de compléter sa mort, Jésus annonce la punition qui s'abattrait terrible sur les coupables. Ce châtiment est déjà contenu dans la conclusion du récit, et puis expliqué dans l'application. Le voici comme il est formulé par Jésus, Luc 20h15-16, « Maintenant, que leur fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Divisons ce jugement en ses trois parties constituantes et considérons comment Jésus les applique à ses auditeurs. A. Il viendra. Jésus laisse entendre que Dieu lui-même viendrait rendre aux vignerons homicides ce qu'ils méritaient. En effet, les Écritures emploient souvent le terme « venir » pour désigner l'intervention de Dieu dans l'histoire pour juger les méchants. Le jugement dont il est question ici est appelé ailleurs un avènement de Jésus, Matthieu 24, 3, ou du royaume de Dieu, Marc 9, 1. B. Fera périr ses vignerons. La colère de Dieu fondrait impitoyablement sur les assassins de son Fils, elle atteindrait non seulement les chefs du peuple mais 64 l'ensemble des Juifs qui avaient rejeté le Christ. Cette prophétie recevrait son terrible accomplissement en 70, lorsque Dieu, agissant par l'intermédiaire des Romains, détruirait Jérusalem et le Temple. Luc 21h22-24, ce seront des jours de vengeance, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Des centaines de milliers de juifs non chrétiens seraient tués ou dispersés sur les marchés d'esclaves à travers le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient refusé de connaître le temps où ils avaient été visités, Luc 19h44. Avant même que Jésus explique cette parabole, ses auditeurs ont compris la menace qu'elle contient et qui pèse non seulement sur les chefs du peuple mais sur toute la nation. Luc 20h16b, lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, qu'il n'en soit pas ainsi. C'est un cri de protestation et de crainte, à Dieu ne plaise. Bible de Jérusalem, non, jamais. Tob. Alors, pour justifier la sentence qu'il vient de prononcer, Jésus l'appuie d'un texte de l'Écriture. Luc 20h17-18, mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, cette de l'angle ? Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » La situation décrite par la parabole avait été prédite par le psaume 118. De même que la pierre rejetée devient la pierre de l'angle, ainsi Jésus, rejeté par une grande partie de son peuple, devait devenir le fondateur du royaume messianique et écraser les juifs qui s'étaient heurtés à lui. C. Et donnera la vigne à d'autres. Maintenant la question se pose, que représente cette vigne, les vignerons punis et les autres vignerons qui leur succèdent ? Écoutons l'interprétation de Jésus, Matthieu 21h43, « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. » Ici, le Christ fait correspondre la vigne au royaume messianique que Dieu avait promis et, en quelque sorte, confié à Israël. Mais la majorité des Juifs, entraînés par leurs dirigeants religieux, rejetteraient le Messie et se verraient par conséquent exclus du règne. Ce sont des fils du royaume jetés dehors, voire les remarquent au chemin d'eux. Le royaume leur serait enlevé dans le sens qu'ils n'hériteraient pas les promesses dont ils avaient été les destinataires. Les vignerons ne sont donc pas l'image du peuple juif tout entier, car Dieu n'a jamais rejeté le juif croyant, Romains 11. Romains 11, 7, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, les autres ont été endurcis. Ainsi, c'est aux juifs incrédules, représentés dans la personne de leur chef, que le royaume serait enlevé. La perte du règne serait historiquement manifestée par la destruction de Jérusalem en 70 et par la fin de l'ancienne organisation politico-religieuse du judaïsme. C'est là que Dieu montra d'une façon éclatante et définitive qu'il avait dissocié la communauté messianique et l'ancienne nation juive. Quelle est donc l'autre nation à laquelle passerait le royaume ? Rien n'indique dans ce contexte que les nouveaux vignerons soient des païens. En effet, le Christ était venu traiter une nouvelle alliance avec Israël, Jérémie 31, 31 SS, Hébreux 8, 6 SS, et les Juifs qui y adhéreraient formeraient une nouvelle nation. Ils auraient un nouveau sacerdoce, de nouveaux sacrifices, de nouveaux patriarches, Luc 22h28-30, un nouveau régime. C'est l'idée de l'Israël spirituel, le petit reste fidèle à l'intérieur du peuple juif, qui recevrait le règne et constituerait la nouvelle nation. Luc midi 32, 60 craintes, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Bien sûr, à ce nouveau peuple viendrait s'associer, comme l'avaient prédit les prophètes, les païens ayant eux aussi reçu le Christ, Romains 11h16-25, 15h27, Éphésiens 2h19-22, voir aussi les remarques au CH. 2. Mais Jésus semble avoir en vue ici non pas l'Église en tant qu'institution composée de croyants juifs et païens, mais plutôt le nouvel Israël créé par l'adhésion de juifs croyants à la nouvelle alliance, Éphésiens 2h12, 1 Pierre 2, 9. Ainsi, nous avons dans cette parabole une autre formulation du principe énoncé par Siméon dans Luc 2h34, Cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Car Jésus y souligne que sa présence au milieu de son peuple amènera la perdition de ceux qui le rejettaient, la réception du royaume pour ceux qui croient en lui. Voici donc l'application originelle de la parabole. De même que le maître de la vigne fit périr les vignerons révoltés qui avaient tué son fils et loua sa vigne à d'autres, de même Dieu ferait périr les meurtriers de son fils, enlèverait le royaume messianique aux dirigeants juifs incrédules et leurs semblables, et le donnerait au reste fidèle, le nouvel Israël. Leçon secondaire 1. Cette parabole montre la prééminence du Christ sur tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne sont que des serviteurs, lui est le Fils unique. 2. L'histoire fait ressortir l'amour extraordinaire de Dieu, qui livre son Fils à la mort pour sauver les hommes. 3. Dieu est d'une patience inconcevable avec les pécheurs, mais sa patience a des limites. Quand les hommes comblent la mesure de leur culpabilité, le jugement divin s'abat impitoyablement sur eux. 4. Si on ne veut pas être écrasé par la pierre angulaire, il faut prendre parti pour le Christ.